Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Bonjour à tous et à toutes. Pour ce nouvel épisode d'Aura des pâquerettes, c'est Radio d'ici qui est à la manœuvre pour vous faire découvrir le Festival international du premier film à Annonay, dans le nord de l'Ardèche. Au sommaire de cet épisode, un passage au nid du festival pour en découvrir l'ambiance, une rencontre avec Gaël Labanti, directeur artistique du festival, puis avec Stéphane Castan, réalisateur du film « Vincent doit mourir », qui nous emmène en détail sur l'écriture d'un film, et enfin avec Jean-Louis V, fondateur du Festival international du premier film, avec qui nous remonterons le temps jusqu'en 1984.
Ce soir, je t'emmène.
Oh, ça, je peux pas.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc.
On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Je dis aux gens qui arrivent là.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci pour cet enthousiasme. Vous n'allez pas être déçus par rapport au film que vous allez découvrir d'ici quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais évoquer, puisque nous arrivons à la fin de ce vendredi, la journée extraordinairement riche qui vous attend demain, ici même au Nacelle et au théâtre, avec le parcours en compétition. Les équipes de films seront là et ça va être génial. Voilà, tout simplement.
Le festival du premier film à Annonay, c'est aussi le nid, le lieu de convivialité, un lieu pour se retrouver entre deux films, pour boire un coup, pour échanger sur les films, pour le plaisir.
Non, moi je me dormais un peu, mais.
De quoi, lequel?
L'homme d'argile.
Oui.
Quand c'est rouge, c'est que c'est rouge, quoi.
On nous prend pour des bleus.
Ouais.
C'est ça.
Au cinéma ce soir, je t'emmène.
Alors, c'est la 41e édition. Ça veut dire que le festival est même encore plus vieux, parce que je crois qu'il y a des années où il n'y a pas eu d'édition, une petite année Covid peut-être.
Ah non, alors il se trouve que nous n'avons jamais eu d'année blanche.
Wow,
on a eu cette chance-là, ce n'est pas le cas de toutes les manifestations culturelles pendant ces années Covid.
Gaël Labanti, directeur artistique du festival.
Il se trouve que le festival 2020 a eu lieu comme chaque année au mois de février. Le premier blackout est arrivé début mars, donc on a pu avoir une édition
à travers les lignes.
2020 ouais. Normale. Et en 2021, on était encore blackout, mais c'est pour ça qu'on a décalé le festival du mois de février au mois de juin sur une version plus réduite. Mais
un
on a quand même un petit peu différente, ça s'est très bien passé. Et voilà, on reprend un cycle normal, donc on n'a jamais...
Donc 41e édition, c'est bien 41 ans.
Exactement, il n'y a pas eu de creux d'année blanche.
Par contre, alors, vous n'êtes pas directeur artistique depuis 40 ans.
Non, moi je suis arrivé à Annonay, donc... en septembre 2003. Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années. Oui, c'est ça, une vingtaine d'années que j'assure la direction artistique du festival.
C'est le cinéma, c'est le festival du premier film qui vous a fait venir sur Annonay.
Au départ, c'est une offre d'emploi émanant de la Maison des Jeunes et de la Culture qui recherche à la fois une personne sur l'animation d'ateliers de cinéma auprès d'un public jeune, donc des interventions en école, en collège et en lycée. Donc il y avait tout ce profil de poste d'intervention en milieu scolaire sur le langage du cinéma et effectivement la coordination artistique du festival. Donc c'est double casquette, donc c'est une offre d'emploi que j'ai vu passer. Moi j'étais à Mâcon à ce moment-là et quand j'ai vu passer le profil de poste, je me suis dit mais c'est exactement moi, j'ai très très envie de candidater et puis de fil en aiguille voilà, j'ai pu obtenir ce poste.
Alors c'était en fait au départ vraiment pour des ateliers plus des interventions auprès des jeunes.
Oui, il y avait cette double casquette après le donc ça je l'ai fait pendant plusieurs années puis se trouve que le festival a pris de plus en plus d'ampleur, accaparant pas mal de temps. Donc du coup tout le volet intervention scolaire, c'est petit à petit mon collègue Brice qui a pris le relais sur le côté création, intervention. Et donc moi, j'ai pu me concentrer quasi à temps plein sur la direction artistique du festival dans les années suivant la création du poste. Oui.
Mais quand même, à travers le festival du premier film, vous gardez quand même un lien avec les scolaires, avec les
Oui, bien sûr, et c'est extrêmement important, même si j'interviens moi plus dans les classes sur de la création, j'interviens sur de l'analyse de films et sur la présentation du festival dans les classes, sur le choix des films, des dispositifs scolaires, ça c'est extrêmement important. Donc on a la chance en France d'avoir des dispositifs qui s'appellent école, collège et lycée en cinéma qui permet à des élèves de fréquenter les salles obscures. Pour certains d'entre eux, c'est la seule et unique occasion qu'ils ont de pouvoir aller au cinéma, en tout cas dans une vraie salle de cinéma. Et donc ces dispositifs-là, il faut les coordonner, choisir les films. Et donc je fais partie des comités de pilotage de ces dispositifs-là. Donc je garde un pied évidemment dans l'éduc-pop et l'éducation en image tout au long de l'année pour pouvoir faire en sorte que pendant le festival, il y ait quasi 5000 entrées qui sont liées à un travail d'éducation en image.
Ah oui, 5000 entrées pour des jeunes, des scolaires.
Exactement,
de tout âge, puisque pendant tout le festival, on voit se promener dans les rues des petites,
oui,
des petites
ça,
classes,
ça,
des plus grandes.
C'est réjouissant de voir effectivement des enfants de maternelle pour qui c'est la première fois, c'est parfois qu'ils vont au cinéma, donc il faut leur expliquer tout le rituel, le fait de voir un film en étant groupé avec ce cérémoniel de la lumière qui s'éteint,
l'installation
dans la salle d'un écran plus grand qu'eux. Donc non, c'est passionnant de voir leurs grands yeux ronds découvrir ces films.
Ils vont au cinéma, ils vont au cinéma Les Nacelles, oui, mais ils vont aussi au théâtre.
Exactement.
Et
ouais,
le
ouais.
théâtre, c'est encore une autre découverte.
C'est bien sûr, c'est un cachet supplémentaire. Ouais.
Et alors, revenons un peu sur le rôle d'un directeur artistique de festival. En quoi ça consiste ?
Alors ça consiste vraiment à repérer les films. Ça c'est la première mission. Repérer la matière première que sont les films pour faire une programmation. Donc ce repérage en fait s'effectue de manière différente. Pour nous la première étape c'est, en tout cas je parle pour le festival d'Annonay, c'est d'aller de se rendre au festival de Cannes chaque année au mois de mai. Pendant 11 jours. Alors quand je dis 11, je ne suis pas seul. J'y vais évidemment moi chaque année, mais je suis à chaque fois accompagné de bénévoles de la commission cinéma. C'est bien d'être plusieurs parce qu'à Cannes, il y a une telle proposition de films que d'avoir différents regards et de pouvoir se partager les films, c'est quand même bien. Et donc à Cannes, on fait notre provision de films et puis aussi de contacts avec des sociétés de distribution, de production. Donc on fait ce qu'on appelle le marché du film, comme les restaurateurs font Rungis le matin pour avoir la matière première pour concevoir leur menu. Et nous, de la même manière, il faut qu'on ait un maximum de contacts et de films potentiels. Donc ça, c'est du repérage.
Il y a Cannes, mais il y a d'autres sources
de
repérage.
Alors, c'est vrai que moi, j'adorerais pouvoir tout au long de l'année avec mon sac à dos faire tous les festivals de cinéma en France. Déjà en France, il y en a énormément, et puis les festivals internationaux. Mais c'est vrai qu'à terme de budget, c'est un petit peu compliqué. Donc évidemment, on suit ce qui se fait dans d'autres festivals internationaux. Je pense à Berlin, je pense à Venise, je pense à Toronto. Mais comme on peut pas y aller physiquement, on peut pas être partout. Voilà, on s'appuie sur les sites internet de ces manifestations-là pour aller repérer les films de manière numérique et ensuite faire des demandes de films auprès des distributeurs ou des vendeurs par mail. Donc voilà, il y a ce boulot-là, effectivement, d'aller de repérage et ensuite d'organisation des séances de visionnage, puisque la particularité d'Annonay, en tout cas, c'est de pouvoir faire participer des bénévoles aux commissions de visionnage. Donc ça, cette étape-là, elle court de fin août jusqu'à début décembre, à raison de 2 soirs par semaine. Et donc, c'est de leur faire un programme, voilà, à partir des films qu'on a récupérés. Et là, cette année, on a reçu plus de 150 premiers longs-métrages pour choisir les 10 films de la compétition. Bah, c'est de mettre en place, d'organiser ces sessions de visionnage. Et puis, une fois que les films sont choisis, il y a un gros travail de rédaction de la brochure, puisque c'est un outil de communication qui est quand même ultra important, donc c'est-à-dire rédiger les petites notules sur chaque film, choisir les photos avec Fred Altazin qui fait la mise en page de la brochure. Donc c'est des rendez-vous assez réguliers, voilà, pour que ça soit ça, voilà, ouais. que la brochure ait un look sympa. C'est mettre en place la grille des projections, ça c'est pas une mince affaire.
Ça, c'est pas une mince affaire, j'imagine.
Voilà, on a 200 séances à caler, à répartir sur 11 jours. C'est de lancer l'invitation aux invités, c'est-à-dire qu'on a non seulement les films, mais on s'est dit, tiens, pour tel film, on aimerait faire venir soit un réalisateur, soit un comédien. Donc, c'est déjà de les contacter.
Ça doit pas être une mince affaire.
D'essayer de les convaincre de venir. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec l'historique d'Annonay, ils commencent à connaître Annonay. Et puis, on a souvent reçu un réalisateur qui connaît tel comédien, qui connaît tel réalisateur. Donc, du coup, c'est un
le
réseau se fait. Et puis, a priori, les gens qui viennent à Annonay passe un bon moment, donc du coup on a plutôt
une bonne
réputation, donc c'est entre guillemets plus simple, c'est jamais simple, mais c'est plus facile de lancer les invitations, puis de voir leur disponibilité, puis de répartir les invités sur les 10 jours, c'est-à-dire
oui,
que si on a un jour on a 12 invités, le lendemain on en a aucun,
ça
marche
pas,
donc il faut à chaque fois, donc on s'arrache un petit peu les cheveux pour essayer de répartir tous ces invités là sur les 11 jours, donc la grille, et puis ensuite pendant le festival c'est l'animation.
L'animation,
l'accueil des invités. L'animation. Alors, même si, en termes d'accueil, je ne m'occupe pas de toute la logistique.
Oui.
J'ai une collègue extrêmement compétente depuis 2 ans qui s'appelle Marion, qui, elle, gère toute la partie achat des billets de train, d'avion, réservation des hôtels, des restaurants. Ça, c'est encore
énorme. Et la coordination de tous les bénévoles qui vont.
Alors, la coordination de tous les bénévoles, là, en l'occurrence, elle est gérée en interne à la MJC par plusieurs personnes, notamment Romain Évrard qui coordonne les bénévoles depuis 2 ans et qui s'appuie sur le travail de Morgane, d'Isabelle, enfin des salariés de la MJC pour la coordination des bénévoles. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est aussi un immense. On se rend pas compte effectivement et on voit souvent le directeur artistique parce que c'est la personne un peu au front, aux premières loges, mais il y a un travail de fond des bénévoles, des salariés de la MJC qui est d'une chargée de com comme Rachel qui fait un boulot énorme aussi autour des relations avec la presse et etc. C'est quand même un boulot absolument incroyable. Et puis, une fois que le festival est terminé, il y a tout le boulot, par contre, d'accompagnement des films après le festival. C'est-à-dire que je reprends mon bâton de pèlerin pour aller présenter les films sur des séances décentralisées, faire que les films vivent leur vie en dehors même du festival. Donc, c'est pratiquement un travail d'une année sur l'autre, entre l'élaboration, le repérage, conception et accompagnement des films, et avant de rechercher des nouveaux films pour l'année suivante.
Oui, c'est
donc
ça.
C'est une espèce de spirale infernale.
On a l'impression
infernale.
Que ça dure 10 jours et que ça tourne juste là autour. Mais en fait, c'est le travail d'une année, comme vous le faites remarquer. Mais qu'est-ce qui vous a amené au cinéma et à vous investir dans ce genre de travail? Depuis tout petit, j'aime le cinéma.
Depuis tout petit, oui, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça, mais c'est vrai que voilà, la passion pour le cinéma, elle date de mes années collège. Vraiment, j'aimais voir des films, et puis ça c'est la découverte de réalisateurs, de grands réalisateurs, de films qui m'ont marqué. Ça s'est intensifié. Donc j'ai jamais fait vraiment d'études à proprement parler sur le cinéma. J'ai poursuivi plutôt un cursus généraliste autour des lettres modernes à Lyon. Mais par contre, à chaque fois que je pouvais faire des passerelles entre mes études et le cinéma, j'ai pu le faire. Et donc, de fil en aiguille, voilà, j'étais attentif à toute annonce qui petites annonces qui pouvaient
être
d'emploi qui pouvaient être liées à la à ma passion. Ouais.
Du coup, c'est pas effectivement un cursus universitaire, c'est pas des études, c'est pas non plus.
Non, surtout qu'à l'époque, bah, maintenant, il y a moyen quand on aime le cinéma d'avoir des un cursus qui soit un cursus dédié. Mais à mon époque, il y avait ça existait, mais finalement, surtout les études de cinéma pour devenir réalisateur ou pour travailler dans le domaine de la création autour du cinéma, mais il n'y a pas vraiment de cursus qui soit un cursus de direction artistique de festival. Donc c'est vraiment des rencontres, voilà, passion, rencontre et hasard et des
Et le hasard fait bien les choses, en tout cas sur Annonay.
Exactement.
Et je reviens un petit peu en arrière sur justement l'accompagnement des films, parce que certains films qui sont présentés en compétition ont déjà des distributeurs, mais pas tous donc. Et ceux-là, il faut qu'ils fassent leur vie, ils arrivent à trouver distributeurs.
C'est compliqué le milieu de la distribution, c'est vrai qu'en plus les années Covid n'ont rien arrangé. Bah, y a cette idée aussi d'aider en tout cas aux films qui n'ont pas de distributeur, les aider à en trouver un, parce que un film en soi ça n'existe pas, un film il existe à partir du moment où il est vu par les spectateurs, comme toute œuvre d'art. Or, l'idée aussi, nous, c'est de participer, le festival est un maillon assez essentiel dans la chaîne cinématographique pour mettre en relation des œuvres et un public. Et j'ai vraiment, moi, à cœur, quand un film n'a pas de distributeur, à la fin du festival, de passer des coups de fil en disant à des distributeurs que je connais, parce que là encore, on commence pour leur dire, voilà, ce film-là est absolument extraordinaire, je pense que ça pourrait vous plaire, est-ce que vous avez envie de vous lancer sur la distribution du film. Donc, si on peut nous servir d'interface, d'intermédiaire entre les œuvres et le public, on le fait bien volontiers. Ouais. Cette notion d'être des passeurs, c'est quelque chose qui est pour moi des choses les plus exaltantes de mon travail.
Oui, voilà, c'est là où on se sent vraiment utile. Quoi.
Exactement.
Eh ben, on a balayé un petit peu ce que c'était que votre travail et ce qui vous a fait venir jusque-là. D'où l'importance des ateliers en milieu scolaire. Hein,
bien sûr, bien sûr.
Que les collégiens et les petits découvrent le cinéma, c'est une chose importante. Et puis, on s'aperçoit donc que le festival international du film à Annonay, du premier film, c'est quand même quelque chose qui a une résonance maintenant dans ce milieu. Le parti pris que vous avez de faire revenir des fois des réalisateurs dans la partie ils sont passés par ici, c'est aussi pour avoir un suivi un petit peu de
oui, un droit de suite, à la fois les réalisateurs, les réalisatrices ou les jeunes comédiens, puisque ça fait plusieurs années aussi qu'on essaye de donner un coup de projecteur sur les nouveaux visages du cinéma français. Nous, ça nous fait plaisir c'est pas histoire de se cirer les chaussures en disant « Ah, Annonay l'a révélé !» Non, c'est parce qu'on a très envie de c'est beau, une carrière qui est en construction, d'avoir les personnes au début de leur ascension et de voir comment eux ont évolué, soit derrière, soit devant la caméra. Et donc, ça fait toujours plaisir quand ils reviennent quelques années après en faisant un petit point d'étape sur leur parcours. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu jusque-là pour la fin de ce festival avant de quelques vacances bien méritées.
Merci beaucoup.
Merci. Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
On est donc installé pour la deuxième fois au nid du festival. On s'est fait un petit coin cosy salon dans le nid. Pendant que LDD s'installe pour la soirée, parce qu'on reçoit sur le plateau ce soir, on reçoit qui ?
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc.
J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Castan, c'est ça ?
Ben oui, tout à fait.
Eh bien, parfait.
Eh bien, bonsoir.
Alors Stéphane, qui va bien sûr vous impressionner avec sa magnifique voix radiophonique. On se demande même pourquoi il n'est pas directement allé sur le média radio plutôt que sur le cinéma. Mais tout d'abord...
Parce que ça rapporte mon argent.
Ah, voilà. Et la réponse a tout de suite été donnée. Alors Stéphane, est-ce que tu peux présenter ton film, qui s'appelle Vincent doit mourir, nous en parler, nous faire un synopsis de vive voix?
Ben, le film raconte l'histoire de Vincent, il n'y a pas trop pris sur la marchandise au niveau du titre. Vincent, c'est quoi? C'est qui? C'est un graphiste qui vit à Lyon, qui est quelqu'un qui n'est ni sympathique ni antipathique, quelqu'un qui est content de lui, et qui du jour au lendemain est victime d'un étrange phénomène, c'est-à-dire que quand il croise le regard de certaines personnes, ces personnes foncent sur lui, tout d'un coup il y a quelque chose qui change d'abord chez eux, et après ils foncent sur lui pour lui péter la gueule. Et au bout d'un moment, il comprend que c'est plus que pour lui péter la gueule, c'est carrément pour le tuer. À tel point qu'il va être obligé de quitter son travail, même de quitter la ville, de fuir, de partir à la campagne en espérant que ça va aller mieux, se confiner, pour ainsi dire. Et sauf que, bien sûr, ça va être un leurre, ça va pas aller mieux, ça va être même pire, puisqu'en plus, il va tomber amoureux de quelqu'un, Margot. Et bien sûr, il n'est pas facile de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui peut vous tuer à n'importe quel moment.
Dans quel contexte tu as imaginé ce film et justement, bah, à travers ça, la genèse de ce film?
Mais la genèse de ce film, elle est un peu atypique, en tout cas dans la production française, puisque ça part d'une proposition des producteurs du film, Thierry Lounas et Claire Bonnefoy, que je connaissais par ailleurs, et qui m'avaient proposé un scénario qu'ils avaient développé dans le cadre des résidences Sofilm de genre, qui sont des résidences qui développent depuis des années. Et ils avaient un scénario, donc Vincent doit mourir, de Mathieu Naert. Et ils m'ont dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de développer un long métrage avec ça? Comme je suis un garçon plutôt poli, j'ai dit que j'allais le lire, dans l'idée de le refuser, parce que bon, moi voilà, je fais plutôt partie de cette école bien française de filmer ce que j'écris. Quand j'ai lu le scénario de Mathieu, ça croisait moi avec des choses dont j'avais envie de parler de toute façon. Et puis j'aimais beaucoup le concept justement de ce eye contact qui génère de la violence. Je trouvais que c'était une idée plus que maligne, mais une idée même intelligente, parce qu'elle permettait de parler de la violence sans indéterminisme, sans psychologie, de façon très concrète. Donc pour moi, c'était très cinématographique. Comme je voyais bien que c'était a priori l'œuvre d'un névrosé, je me suis dit que, et comme je suis moi-même pas en reste sur les névroses, je me suis dit que je pouvais y introduire les miennes. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un autre camarade scénariste, bien névrosé aussi, Dominique Bomard, de venir et de réfléchir ensemble là, pour que ça devienne le film que moi j'avais envie de faire à partir de ce matériau de base.
Et à quel point justement tu as pu te réapproprier ce matériau de base? À quel point tu l'as remodelé à une forme peut-être d'actualité aussi? Je sais pas à quel point l'écrit et la réalisation a mis du temps à...
Pour moi, c'est l'écriture, de toute façon, elle est permanente sur un film. C'est-à-dire que, il y a bien sûr au scénario, et sur le scénario, avec Dominique, où on a bousculé pas mal de choses. C'est-à-dire que, dans le scénario de départ de Mathieu, il n'y avait que le personnage de Vincent qui était victime du phénomène. Et je trouvais ça, je comprenais en quoi ça pouvait intéresser Mathieu d'être dans ce phénomène-là, mais moi je trouvais ça un peu limitatif et j'avais plutôt envie justement de quelque chose qui est une forme de contagion, qui est ses sentinelles, qui est le chien, bien sûr, et d'axer beaucoup sur le aussi l'histoire d'amour. Moi ça m'intéressait pas mal que ça raconte finalement l'histoire d'un déplacement, quoi, c'est-à-dire de quelqu'un qui au début pense être à sa place. Le côté content de lui et qui déjà va se retrouver déplacé de son travail parce qu'il peut plus rester à son travail, déplacé de chez lui, même chez son père qui a plus sa chambre et c'est tout ça. Etc. Et donc ce déplacement va l'amener où? Mais à la marge. Et c'est le paradoxe du film, c'est qu'il doit échapper au regard des autres et en même temps lui-même va porter son regard vers une réalité que peut-être il n'entrevoyait pas ou même qu'il ne voulait pas voir. Donc il va se mettre à parler à un clochard. Clochard même dans lequel il va reconnaître son histoire, qu'il va écouter alors que sûrement avant il n'aurait jamais écouté, et il va même tomber sur Margot, qui est un personnage, comme diraient les chaînes d'infos continues, un personnage en détresse sociale, et il va la regarder sûrement comme il n'a jamais regardé une autre femme auparavant. Il y a eu tout ça au scénario, plus aussi l'humour absurde qu'on a pas mal injecté, parce que moi c'est une chose à laquelle je tiens, qui est déjà très présente dans mes courts-métrages. J'aime bien qu'on puisse rire des choses pas drôles. Et il y a cette part d'écriture au scénario, mais l'écriture après elle se poursuit au tournage avec les actrices et les acteurs, d'autant que je leur demande souvent de ne pas apprendre le dialogue pour favoriser le jeu de la situation plutôt que celui de la réplique. Et après, l'écriture se poursuit au montage. Donc, c'est comme toujours, comme presque, je dirais, pour beaucoup de choses au cinéma, c'est quelque chose de très collectif. Moi, je savais que le film aurait une tonalité particulière. Après, j'ai envie de dire que c'est la réalité des corps, la réalité de ce qu'on traverse au tournage qui et le matériau dont on dispose au montage qui donne cette... La véritable écriture, elle est là. de toute façon. Elle est véritablement à cette étape-là quand on doit faire avec les images, les sons et ce qu'on le travail des comédiennes et des comédiens. Mais pour moi, c'était cette idée-là, c'était l'idée d'un film qui est constamment en mutation, mais avec malgré tout un fil rouge sur la recherche il cherche à prendre quelqu'un dans ses bras, quoi, tout le long du film. Parce que même leur histoire d'amour, tout le moment sur le bateau qui semble déconnecté du phénomène, bon, il y a quand même des signes, ils sont obligés de s'attacher, bien sûr, ils sont obligés d'intégrer dans leur histoire d'amour le problème. C'est-à-dire que le film raconte aussi combien il est difficile de s'aimer.
Tu nous parlais d'acteurs et actrices, justement, je pense à l'acteur, donc Karim Leclou, qui joue Vincent. Comment on choisit un personnage qui va souffrir tout le long de son film? Est-ce qu'on choisit le visage sur lequel on va mettre des blessures?
Moi, Karim, bon, de toute façon, je le connaissais pas, mais c'est un acteur que je suivais depuis un moment, parce que je trouve qu'il fait partie des acteurs parmi les plus passionnants en ce moment. Et pour avoir travaillé avec lui, je confirme que c'est à la fois un putain d'acteur et c'est un putain d'être humain. Comment on le choisit? Bah, de toute façon, toute la difficulté par rapport à un rôle de Vincent, c'était quel corps, puisque tu as raison, c'est un corps maltraité, en tout cas qu'on maltraite pendant presque 1h45. Pour moi, l'originalité du film, je le sentais, c'était qu'on avait affaire à des combats avec des corps ordinaires. Des corps de tous les jours, voire des corps tabous comme pour les enfants. Donc il fallait pas que on pouvait imaginer, si on est un peu cliché, un corps beaucoup plus évident, taillé, capé pour des scènes de combat. Moi, ça m'intéressait absolument pas. Et Karim s'est imposé, je dirais, comme une évidence, parce qu'il a la dualité pour moi qui était évidente pour le rôle. Puisqu'il peut être monsieur tout le monde, et en même temps il a sa singularité, il dégage une très grande douceur, en même temps il peut faire preuve d'une grande brutalité à l'image. Et puis il y avait une autre chose qui m'intéressait beaucoup pour le rôle, c'est qu'il a quelque chose des grands burlesques, avec où il doit faire avec sa maladresse, avec un visage impassible, un peu, tu vois, la manière d'un Harry Langdon ou d'un Buster Keaton. Et ça, je trouvais que pour l'attaque du film, en tout cas pour ces 25 premières minutes, c'était essentiel d'arriver avec un personnage comme ça, justement sans blabla, sans psychologie, de ne pas avoir un acteur ou un personnage qui allait être sur la question de se demander mais pourquoi est-ce que ça m'arrive. À aucun moment cette chose-là ne traverse l'esprit, mais on est davantage sur une question qui pour moi est infiniment plus cinématographique, qui est la question du comment. Comment on va s'adapter, surtout comment on va survivre.
Et on en parle donc des personnes devant, mais aussi les personnes derrière la caméra, bon, dont toi, mais aussi toutes les autres personnes qui ont filmé cette violence. C'est très dur de filmer correctement la violence. Alors, il peut y avoir des artifices pour rendre la chose plus réelle, pour rendre la chose plus crédible. Comment on filme des scènes comme celle-là et comment on les rend, j'allais dire, crédibles sans être dans le morbide?
Ben c'était, en tout cas pour moi, c'était une des premières questions de toute façon. C'était que quel traitement avoir sur la violence? Moi, je trouve que très souvent, la violence au cinéma, en tout cas depuis une bonne trentaine d'années, elle est finalement montrée de façon assez sympathique, plutôt fun. Alors je pense qu'il y a à la fois l'influence du cinéma hongkongais, l'influence aussi de Tarantino. Attention, ce sont des choses que moi j'aime par ailleurs. Mais ça a posé un standard justement avec des corps hyper bien taillés, des chorégraphies extrêmement virtuoses, une caméra qui virevolte, qui fait que ça rend la violence assez inoffensive finalement, où on peut désinguer une trentaine de personnes, même pas mal. Et moi, je sentais que pour ce film-là, vu ce que moi je voulais raconter, c'était pas juste. Donc il fallait, et puis je sais pas quoi, pour qui a déjà assisté ou participé à des rixes dans des bistrots, des choses comme ça, c'est tout sauf virtuose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de pêche dans la gueule comme au cinéma. Les coups ripent, on se prend les cheveux, on se tire les vêtements, on se crache à la gueule. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Donc, moi, j'avais plutôt envie que ça soit sale. Et ça, c'était une réflexion que je menais conjointement avec les deux Manu, je pourrais dire, c'est-à-dire à la fois Manu Dacos, le chef-op du film, et grand chef-op, et Manu Lanzi, qui est le régleur cascade avec son assistant Tony Faux. Et Manu Lanzi, qui est aussi un putain de régleur cascade. Il a, Il a fait, enfin, la plupart des films français avec des cascades, c'est Manu qui a la manœuvre. Et donc voilà, c'est-à-dire que je leur disais ça, quoi. Il fallait qu'on soit dans quelque chose de sale. Et pour Manu Lanzi, c'était presque d'aller à rebours de ce qu'il fait d'habitude, puisqu'il fallait qu'il chorégraphie non pas de la virtuosité, mais au contraire de la maladresse. Et après, avec Manu, on s'était dit qu'il fallait être assez près des corps, sur une caméra à l'épaule, et pour qu'on soit dans cette forme de réalisme-là avec ces corps-là, mais néanmoins, parce qu'on est quand même dans du cinéma, quoi. Il y a une chose qui fait que tout d'un coup on est dans une chose malgré tout spectaculaire, c'est le son. Et le travail du bruitage, pareil, on avait un très grand bruiteur sur le film qui est Bertrand Boudot, qui était entre autres le bruiteur de C'est arrivé près de chez vous, donc autant dire que la question des nions dans la gueule, il la maîtrisait parfaitement. Et les sons ne sont pas du tout à l'échelle de ce qu'on voit à l'image. Si les sons devaient être conformes à ce qu'on voit à l'image, les sons seraient tout petits. Or là, ils sont énormes. Moi, je tenais à cette chose-là, à ce décalage-là entre ce qu'on a à l'image et ce qu'on a au son. Et c'est ça qui rend tout d'un coup cette réalité si violente et, j'espère, si impactante pour le spectateur.
Est-ce que tu as des exemples de films marquants qui t'ont fait dire « Ah ben en fait, ça m'a emmené petit à petit à réaliser ce film-là »
Bah, les inspirations, elles sont assez transparentes, hein, dans le film. Il y a bien sûr Carpenter, plutôt le Carpenter de Invasion Los Angeles, je ne peux que, comment dire, conseiller à tout le monde de voir ce film, puisque c'est quand même le film qui explique que le capitalisme vient des extraterrestres, ce qui est quand même l'explication la plus logique. Il y a le Romero, mais plutôt le Romero première manière, celui de The Crazies. Il y a aussi puis des choses qui sont très loin du genre. Moi, il y a Buñuel, mais de manière Buñuel qui reste pour moi une sorte de maître par l'absurde, justement, sur la manière de traiter la réalité presque de profil et d'en saisir une vérité plus étrange et en même temps plus profonde. Et Godard aussi, justement, pour la scène de la bretelle sur l'autoroute, je pensais pas mal à un week-end de Godard où il y avait un embouteillage comme ça où les gens se foutaient sur la gueule. La chose qui m'inspire le plus, moi, c'est l'équipe, c'est les gens avec qui je travaille. On a fait un film de troupe, moi je tenais beaucoup à ça parce que je viens du théâtre et que moi j'aime bien justement ne pas être sur la chose. Très souvent au cinéma, les choses sont très pyramidales avec des chefs de poste, avec un respect de la hiérarchie qui aurait une tendance à m'emmerder. Donc là, c'était voilà, j'aime bien que les choses soient collectives, que bon après il y a un connard qui prend la décision. En l'occurrence, ce connard c'est moi. Mais moi j'aime bien voilà que tous les talents s'expriment et justement de ne pas avoir peur du talent des autres, au contraire. Donc c'est inspirant de partager avec ces gens-là le temps de la fabrication de ce film, la réflexion avec toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la fabrication du film.
Eh ben, bravo à eux, bravo à toi, bravo à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce film. Merci beaucoup Stéphane.
Merci à toi.
Et puis, on va se laisser en musique. Est-ce que tu aurais une envie musicale pour laisser les gens sur une ambiance qui te correspondrait le mieux?
Oh putain, moi en plus j'écoute que les choses de vieux.
Eh ben c'est parfait.
Mais tiens, Haitian Fight Song de Charlie Mingus.
Parfait. Merci au Festival du Premier Film de nous donner l'occasion de rencontrer des personnages comme toi. Et puis, on se dit à très bientôt. Et toi, bon parcours avec ce magnifique film.
On va tâcher.
Aura des Pâquerettes.
Mais oui, vous écoutez toujours l'émission Aura des Pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour cet épisode, nous sommes au Festival international du premier film d'Annonay en Nord-Ardèche. Bonjour Jean-Louis V.
Bonjour Radio DC.
Nous vous accueillons aujourd'hui dans cette émission parce que je me suis laissé dire que vous êtes à l'origine de ce festival du premier film. Est-ce que c'est vrai ?
Ben, c'est pas complètement faux, on va même dire que c'est tout à fait vrai.
C'est déjà une chance, pour moi en tout cas, et pour les auditeurs et les auditrices. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée. Est-ce que c'est le fruit d'un travail d'équipe ou collectif et...
Ben, il faut expliquer un peu le contexte de l'époque. Donc, c'était en 1984. Je venais d'arriver comme directeur de la MJC d'Annonay en 83. Et à cette époque, la MJC n'avait pratiquement aucune action culturelle. Et donc, il fallait ma mission qui m'avait été confiée, c'était de relancer des actions culturelles sur la ville d'Annonay par l'intermédiaire de la MJC. Et donc, le cinéma, c'était une de mes passions. Je venais d'une autre MJC dans une autre région où j'avais déjà créé un festival de cinéma. Et ça a été une de mes propositions au conseil d'administration et aux quelques personnes qui s'intéressaient à la culture à l'époque, à la MJC, ce qui était un peu l'origine de la commission cinéma actuelle, bon, qui s'est beaucoup développée très rapidement. Donc cette idée a été lancée, qui correspondait aussi à l'arrivée sur Annonay d'un nouvel exploitant de la salle de cinéma qui venait d'être rachetée. D'après ce que j'avais compris, les relations qu'il y avait entre l'ancien exploitant et la MJC étaient exécrables, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas y avoir d'action commune sur le cinéma. Là, arrivait un nouvel exploitant qui avait envie de faire des animations pour pouvoir rendre dynamique son cinéma. Alors il faut dire que donc la première année où on a lancé le festival, on était encore, enfin la salle actuelle des Nacelles n'était pas construite et on était encore dans une salle très vieille et très délabrée, donc qui était de l'autre côté rue Sadi Carnot. On a fait le premier festival donc dans des conditions matérielles qui étaient vraiment très sommaires. Au départ, on n'avait absolument aucun financement. Donc la première édition a été une édition où on s'est débrouillé un peu avec les moyens du bord, je dirais, et où on a eu, alors je ne sais plus de mémoire, on a dû faire quand même quelque chose comme 2000 entrées sur le premier festival.
Mais c'était déjà le festival du premier film. Vous étiez parti sur l'idée des premiers films ?
Non, pas tout de suite. Il y a eu 6 éditions où on était sur... il n'y avait pas cette thématique de premier film, mais c'était chaque année, pendant les 6 premières années, une thématique, essentiellement une thématique géographique différente. Donc la première édition, ça devait être de mémoire, hein, sur le cinéma français et francophone. Après, on a fait le cinéma africain, il y a eu 6 éditions comme ça.
Ces premières éditions, du coup, étant donné la salle vétuste que vous aviez,
sur la première année simplement. Sur la première année. Ensuite, il a donc l'exploitant qui était en fait un très gros exploitant sur la région, puisque c'était même l'exploitant qui avait le plus de salles sur la région. Il a investi dans le nouveau cinéma, ce qui est le cinéma Les Nacelles maintenant.
D'accord. Donc très vite, vous avez pu donner de l'ampleur au festival.
Voilà. Toujours sans moyens financier ou une subvention, je ne me souviens plus exactement, mais une subvention très dérisoire de la mairie. Et
vous arriviez à faire venir des films sans moyens financiers donc, et des réalisateurs ou réalisatrices, il devait y en avoir peu à l'époque, des réalisatrices sur place pour alimenter le festival
ou... Oui, parce que à l'époque, c'était uniquement des films qui avaient un distributeur. Il n'était pas question de passer des films inédits. Donc, tous ces films qui étaient en exploitation commerciale, c'était pris en charge par l'exploitant. Et on avait simplement en charge les frais de communication, les frais d'invités quand il y avait des invités. Et on équilibrait avec... avec les recettes, quoi, on arrivait à équilibrer. Donc ça a duré jusqu'à la 6e édition, et puis de bon an mal an, le festival a vu sa fréquentation augmenter, puisqu'on était passé des 2000 entrées à la première édition, à la 6e, on devait être arrivé à quelque chose comme 5000. Et il s'est passé à ce moment-là, on a eu envie de se dire, il faudrait quand même qu'on devienne un véritable festival en promouvant des découvertes, en passant des films inédits, etc. Et dès la 6e édition, d'ailleurs, il s'est trouvé qu'on avait... ce thème du premier film est apparu parce qu'on avait une des sections du festival qui était de présenter des premiers films. Et avec une compétition à ce moment-là, enfin, qui était uniquement un prix du public. Et ça nous a effectivement donné l'idée à ce moment-là de se transformer en festival du premier film. Et il y a eu un autre événement extérieur, je dirais, au festival. C'était l'arrivée d'un nouveau maire sur Annonay, qui était Claude Faure. Et il se trouvait que Claude Faure était très sensible à la question du cinéma, parce que je crois qu'il avait son fils qui travaillait dans le cinéma et qui était très ouvert aux propositions. Donc je me souviens de cette anecdote lorsqu'on a dit qu'on allait se diriger vers un festival du premier film et que pour ça il y aurait besoin de moyens. Je sais que c'était une époque où c'était assez facile de contacter le maire, donc j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit j'ai une idée à vous soumettre. Une demi-heure après, j'étais dans son bureau, je lui soumettais l'idée, et il a marché sur cette idée. Donc comme il était maire d'Annonay mais en même temps conseiller régional, je crois qu'il devait être aussi conseiller départemental, enfin conseiller général ça s'appelait à l'époque, Et les choses se sont enclenchées, donc il y a eu des financements de la mairie, il y a eu des financements de la région, et ce qui fait que le budget, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais s'est trouvé considérablement augmenté dès la 7e édition, où c'est devenu, alors il y avait deux thèmes, c'est devenu le festival du premier film et de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on avait, ça devait être depuis la 6e édition, on avait développé ce thème de film sur la jeunesse. Et pendant quelques années, ça a été festival du premier film et de la jeunesse. Cette appellation, on a dû assez vite l'abandonner parce qu'il y avait confusion, quoi. Quand on s'adressait à des réalisateurs de premiers films, où on leur disait qu'on avait envie de présenter leurs films ou qu'il fallait qu'ils nous les montrent, ils nous répondaient « oui, mais c'est pas un film sur la jeunesse », donc c'était assez compliqué. Donc au bout de quelques années, on s'est débarrassé de ce deuxième thème pour que ça devienne vraiment le festival international du premier film. On s'est mis à rechercher des films, quoi, à voir des films inédits qui n'avaient pas de distributeur. Les premières années, ça a été un peu compliqué parce que il fallait se faire un nom au sein des festivals et que les réalisateurs, les producteurs étrangers n'avaient pas forcément envie de venir présenter des films à Annonay. Et puis, ça s'est très vite... Le festival d'Annonay a pris une place qui faisait qu'on était assez incontestable et qu'on n'avait plus vraiment besoin de demander des films, que les films arrivaient...
Oui, parce que des festivals du premier film, il n'y en a pas tant que ça.
Il y en a deux essentiellement.
En France.
Et on a démarré pratiquement en même temps. C'est le festival Premier Plan d'Angers. On a démarré quasiment la même année, je crois. Mais le festival de premier plan d'Angers, qui existe toujours, et comme celui d'Annonay, a eu plus de facilité à démarrer très vite, dans la mesure où c'était un distributeur de films qui était à l'origine, c'était pas le même fonctionnement du tout qu'à Annonay, un fonctionnement associatif avec des bénévoles. C'était vraiment un professionnel qui a lancé ça avec en apportant des moyens qu'on n'avait pas nous, quoi.
Mmh. Oui, vous êtes plus appuyé au départ sur effectivement le modèle associatif, puisque ça partait d'une MJC aussi. Donc.
Complètement, ça partait, ce qui reste quand même assez rare dans le domaine du festival, c'est que c'est toujours, 41 ans après, ça reste toujours un festival porté par une MJC, alors qu'il y en avait d'autres, il y avait d'autres festivals en France qui étaient portés par des MJC, et qui se sont séparés des MJC, qui après ont pris une vie autonome.
Indépendante.
Quoi. Indépendante.
Et ce côté international, vous l'avez donné tout de suite au festival.
Ben c'était, de toute façon, ça a été une idée. Bon, la première année, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était festival du film français francophone. Bon, parce que c'était un peu la sécurité, on est parti là-dessus. Mais très très vite, on a eu envie, à chaque édition, de faire découvrir des cinématographies de différents pays. Et on avait un thème qui variait chaque année, qui a continué lorsque le festival est devenu Festival international du premier film. On avait une section qui était découverte. Je sais plus, on a fait le cinéma polonais, on a refait le cinéma africain. On avait chaque fois une découverte de cinématographie où on invitait des réalisateurs de ces pays.
Et je suppose que donc pendant toute la période où vous vous êtes occupé de ce festival, il n'y avait pas énormément de réalisatrices encore.
C'est sûr que les réalisatrices, la place des réalisatrices, elle a explosé ces 10 dernières années. On a eu des présidentes de jury, on a eu...
Et question justement sur le jury, donc au début c'était un prix du public, si j'y vois.
La première année, ouais. Voilà.
Et puis ensuite, donc vous avez constitué un jury plus professionnel ?
Non. L'idée après, ça a été de constituer un jury de cinéphiles. Donc, dès la septième année, on a lancé cette idée-là, qui était un peu piquée, une idée qui était un peu piquée sur le prix du livre inter de France Inter, où on demande à des lecteurs de candidater pour être au jury. Donc, et là, c'était un peu cette idée-là, donc qui se poursuit, je pense, en partie, puisque le jury est en partie, il y a encore des cinéphiles. Donc, on s'adressait aux cinéphiles de la région Rhône-Alpes en leur demandant de nous envoyer les raisons pour lesquelles ils voulaient être membres du jury. Et c'était un gros travail d'ailleurs qui était effectué par les bénévoles de la commission cinéma de sélectionner. On recevait plus d'une centaine de candidatures en général et on en sélectionnait 8.
Et ça perdure puisque un de nos bénévoles de la radio était bénévole aussi, était jury cette année pour la 41e édition.
Alors on était très vigilants au fait que dans le jury, la parité soit respectée.
Voilà, c'est bien.
Je tenais à le dire.
Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une expérience qui aura bien rempli votre vie professionnelle.
Ah ben, pendant 24 ans quand même. Je dirais que les premières années du festival, non seulement ça la remplissait, mais ça la faisait déborder parce que je faisais tout. Les premières années, j'avais aucun assistant, donc j'allais chercher les invités, je faisais absolument tout.
Il fallait chercher les films, il fallait choisir.
Mais porter les films, j'avais quand même quelqu'un qui portait les films. À l'époque, c'était de la pellicule, hein, c'était des bobines, des
sacs. Oui, mais aller chercher les films dans le sens trouver les films,
trouver
les contacts et tout.
Oui, bien sûr.
Et oui. On n'est pas cinéphile pour rien.
Voilà. Et après, il y a eu, l'équipe s'est professionnalisée. Et puis après, je me suis...
Et puis Gaël Labanti
voilà,
est arrivée.
Gaël a été embauchée au début des années 2000, ou je ne sais plus exactement l'année. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il a eu la responsabilité de direction artistique et je me suis retiré petit à petit de cet aspect-là pour garder le rôle de directeur administratif. Quoi.
Que garde actuellement la MJC, effectivement.
Voilà, ouais.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'au micro de Radio d'ici pour nous raconter les débuts du festival. Et festival qui continue sa vie sur Annonay et voilà. Qui fait connaître la ville d'Annonay un peu partout. Qui contribue en tout cas à faire connaître.
Oui, c'est le rôle aussi d'un festival, de contribuer à faire connaître la ville et puis de participer au développement économique aussi des villes.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je m'appelle Emmanuel Zuffrano et j'ai eu la chance de faire partie du jury cette année. J'ai envoyé une vidéo de 3 minutes. À la base, j'en ai enregistré une très 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 longue, puis j'ai fait un montage et je pense que c'est ça qui a plu à la commission cinéma, où j'expliquais les films préférés de l'année, un petit peu mon parcours de cinéphile. Et puis ça a plu et j'ai été vraiment très heureux d'être pris, en fait, parce que j'avais déjà essayé l'année dernière. Quelques années auparavant, j'avais essayé aussi, puis j'avais jamais été pris. Donc là, ce fut une grande chance. Je prends ça comme étant une grande chance d'avoir pu faire partie de ce jury. Et beaucoup d'angoisse quand même, parce que moi, je prends les choses très à cœur et il y avait une responsabilité que je prenais vraiment très à cœur. Et quand on s'est tous retrouvés enfin, après cette attente, parce qu'on sait qu'on est pris presque un mois et demi avant, quand on s'est retrouvés, tout de suite, j'ai senti que le groupe était très humain. J'avais assez peur, entre guillemets, de côtoyer des professionnels, parce qu'on a toujours cette image d'un monde qui est loin, d'un monde qui est différent, alors que ça reste des êtres humains. Et c'est vrai que la spécificité du jury d'être avec des cinéphiles et des professionnels du monde du cinéma, c'est vraiment chouette parce que directement, il y a une passion commune. Très vite, on se retrouvait après les séances. Ça veut dire qu'on s'est rencontrés, on a vu un film le soir et très vite, on avait ce petit rituel tous ou presque, parce que chacun fait un peu ce qu'il veut en tant que jury, on n'est pas obligé de toujours se retrouver, à part pour les repas et pour les films. Mais en tout cas, on vivait les séances ensemble. Et après, on était un bon groupe à se retrouver après les séances pour parler des films directement, débriefer. Et moi, j'avais pris cette habitude de prendre directement des notes très, très, très vite pour pas oublier certains petits détails, ce que j'aimais et ce que j'aimais pas dans les films. Et on en parlait derrière. Et ça revenait aussi pendant les repas. Donc, il y avait quand même des moments où on se retrouvait tous ensemble pour pouvoir parler des films entre membres du jury, chacun avec sa sensibilité. On défendait déjà certains films. Au bout de très très peu de visionnage, on avait déjà... En fait, on est obligé d'aller assez vite et de faire directement une espèce de liste de préférences. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris pour être le plus à l'aise possible, pour pouvoir juger les films du mieux que je pouvais. Et petite appréhension aussi pour la délibération, parce que je savais qu'il y avait des tendances directement, vu qu'on en parlait tous, toutes et tous, il y a des tendances qui se dessinaient et je savais ce que j'avais à faire pour défendre les films que je voulais être récompensé. Donc il y a le côté individuel, mais il y a le côté du groupe aussi. Et très vite, Sam Carman, qui était le... C'était pas le doyen, mais c'était celui qui avait un peu plus de bouteilles dans le groupe, si on peut dire ça. Il a mis en place très vite un petit système parce qu'il avait déjà fait partie de jury, de choses et d'autres, qu'il était un petit peu pressé, malheureusement, par le temps. Et on a juste suivi le mood et très vite, pour nous, le Grand Prix a été une évidence parce que tout le monde était d'accord pour dire que Yurt était le meilleur film de la compétition, pour nous en tout cas. Et après, ça a été 3 heures de débats divers et variés sur le prix spécial. Là où c'est pas un regret, parce que tous les films méritaient un prix. Tous les films, je les ai trouvés bons, chacun à leur manière. C'était une magnifique sélection. Et au final, je suis pas du tout déçu par l'expérience, quoi. C'était incroyable. Et puis, de rencontrer des personnes humaines, de partager ensemble autour du cinéma dans une bulle pendant 4 jours. Ce fut une expérience incroyable que j'aimerais bien revivre un jour.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.